Nous avions 25 et 26 ans quand Nils et moi, nous nous étions installés dans cette métairie datant de 1770, dont le charme enfantin s'était maintenu tel quel dans un exil du temps. Exil sacré à nos yeux, comme si Mozart, qui avait alors 7 ans, s'y était reposé sous les cerisiers pour une halte au passage entre l'Autriche et Paris. Et qu'il y était encore, tout en n'y étant plus. L'air en avait gardé un goût de féerie et Nils m'avait surnommée Pamina. Notre ferme, l'une des plus hautes de la vallée, une des plus délabrées, est toujours là. L'une des plus petites aussi, l'une des plus basses. De roman en roman, je lui donne un autre nom. Une fois Bambois, une fois la survivance, nous voilà aux hautes huttes. Mais c'est toujours la même maison, ou alors le même rêve de maison, une sorte de chimère, un être composite qui revient de rêve en rêve, toujours le même et chaque fois différent. Un archétype de maison remonté de l'inconscient. On invente seulement à partir de ce lieu-là. Toutes nos fictions viennent de là, tous nos romans. Et ce que je raconte ici est un roman ou alors un rêve. Comme on voudra, mais en aucun cas de la réalité. À peine arrivé, je m'en souviens parfaitement, nous étions placés sous la protection des arbres. Nous en avions beaucoup ajouté. Nils avait un carnet où il notait ses plantations. On avait commencé par là, par les arbres et les arbustes, parce qu'il ne s'agissait pas seulement de se barrer dans les montagnes, mais aussi de ne pas se faire rattraper par des poursuivants. Depuis, ces arbres, ces arbustes ont si bien poussé qu'aujourd'hui, les satellites de Google Earth n'arrivent plus à transpercer leur canopée. Quand on me demande « c'est comment vivre dans les montagnes ?», je réponds « c'est autrement, plus difficile. Évidemment, vivre dans les montagnes, c'est plus difficile. Voilà pourquoi on y est moins nombreux, mais plus décidés. » Il avait sans doute fallu un garçon du genre de Nils, né un 18 mars, jour anniversaire de la Commune de Paris, donc un insurgé de naissance, pour m'entraîner là-haut. Et dès notre arrivée, Nils avait continué à faire la forte tête. Nils, la forte tête en personne. Il avait le génie du nom. Et pas du nom pour le nom, mais du nom essentiel qui est parfois de dire oui à toute autre chose. Nils avait aussitôt résisté aux ingénieurs du génie rural, au corps des ponts et chaussées qui, dans les années 70 du siècle précédent, voulaient aménager notre minuscule territoire, le désenclaver, pulvériser notre poche de résistance, relier son vilain petit chemin privé en circuit communal et goudronné, et de là au grand circuit commercial qui s'annonçait, et de là aux villes, aux parkings, des supermarchés, aux terrasses à chaque rue, aux opinions qui se répandaient comme le jus d'une seule cervelle, au tourisme de masse, aux sacs en plastique, aux océans qui agonisent, aux billets low cost, aux valises à roulettes, aux aéroports, aux caméras, aux grands réseaux global et surveillés qui s'annonçaient. On a dit non ensemble, Nils et moi. On n'a jamais été censés. Heureusement, heureusement.
Elle vit dans les Vosges, hein ? Elle vit vraiment dans une forêt, cette femme.
Ouais, ouais, ah ouais, c'est bien. Bon, ouais, là, j'ai dit une partie, parce qu'après, elle sort avec les cerfs, enfin, dans les affaires.
Alors, moi, j'ai un très court poème de quelques